فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، nous allons entamer إن شاء الله تعالى une série de cours concernant تزكية النفس, l'éducation de l'âme. Pour cela, j'ai choisi comme support une risala, un épître écrit par le savant Al-Ajurri, dont on parlera rapidement et brièvement, Inch'Allah Ta'ala. Ici, un savant du 3e siècle, et ce savant a écrit sur l'éducation de l'âme. Le titre de cette épître est Adabun Nufus. Donc, il va parler de l'éducation de l'âme. C'est une épître qui n'est pas longue, qui fait à peu près 9 pages, mais remplie ou pleine de leçons à tirer. Surtout à notre époque, où nous avons toutes et tous besoin d'éduquer notre âme, bien sûr à toute époque, mais plus sûrement à notre époque que dans les époques qui nous ont précédés. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'avec ce qu'on voit autour de nous aujourd'hui, on a l'impression que les gens ont abandonné at-takhliya, la purification, et se sont consacrés plus sur at-tahliya, l'ornement, c'est-à-dire, si tu veux, sur l'apparence. Et ici, il est important en islam de prêter attention à son apparence, mais il est encore plus important de prêter attention à son intérieur, à la purification de son intérieur. Et donc aujourd'hui, si nous voyons des comportements au nom de l'islam, ici qui nous étonnent, des comportements au nom de l'islam qui quelquefois font fuir, des effets de mode, on a l'impression que l'islam est basé particulièrement et simplement sur une apparence. Si aujourd'hui on voit des gens qui se préoccupent plus des gens et de l'âme de leurs frères ou de leurs sœurs, plus que de leur âme, eh bien on comprend qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont abandonné la purification de l'âme. Et c'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, a dit une parole, « Man arafa nafsah, ishtaghala bi islahiha an uyubin nas. » Celui qui connaît vraiment son âme, eh bien va se préoccuper de la réforme de son propre âme avant de s'occuper, ou plutôt que de s'occuper, eh bien, des gens. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, c'est-à-dire le mal que j'ai cité précédemment, on a tendance à plus s'occuper des gens que de notre propre âme, tout simplement parce qu'on n'a pas pris conscience que notre âme peut nous jouer des tours, et que c'est une amana, c'est un dépôt, et que c'est une responsabilité qu'on a vis-à-vis de cette âme. C'est-à-dire, on a une part de responsabilité quant à au devenir de cette âme-là. Et au jour de la résurrection, on sera interrogé sur cette âme-là qui nous accompagne depuis le jour où on est sorti du ventre de notre mère et continuera à nous accompagner jusque notre mort et continuera à nous accompagner après notre mort. Et l'âme se plaindra, il y a un type d'âme qui se plaindra auprès d'Allah Azza wa Jal au jour de la résurrection, le jour où les regrets ne profiteront en rien du tout. Il y aura une âme qui sera apaisée et qui rejoindra son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et il y aura une âme, eh bien, qui ne se dirigera pas vers son Seigneur, mais malheureusement vers la colère de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et on verra les trois degrés d'âme qu'il y a. Et tout en sachant que l'être humain peut passer d'un degré à un autre degré en l'espace d'une heure, en l'espace de 10 minutes, en l'espace de 30 minutes, et cela tout au long de sa vie. C'est-à-dire que tu peux passer du meilleur degré au plus mauvais des degrés, et des plus mauvais des degrés au meilleur des degrés en l'espace de 10 minutes. Tout dépend de l'emprise que tu vas avoir sur ton âme. Et cela tout au long de ta vie. Donc quelque part, tu dois dresser ton âme de jour comme de nuit, c'est-à-dire ne pas lâcher les rênes. Et vous allez voir que l'imam Al-Ajurri, à la fin de sa risala, il donne une métaphore quand il parle de l'éducation de l'âme. Et il rappelle que l'éducation de l'âme, c'est comme l'éducation d'un cheval. Et on verra ici cette métaphore, incha'Allah, tabaraka wa ta'ala. Alors quand on parle d'éducation de l'âme, c'est-à-dire la purification de notre intérieur, la purification de notre âme, la purification de notre cœur, car le cœur et l'âme se rejoignent, comme on le verra incha'Allah ta'ala, cela ne veut pas dire qu'on doit purifier notre âme et se débarrasser de tout ce qui va attirer notre âme comme désir et plaisir. Ça, c'est une erreur. De penser qu'à partir du moment où nous sommes attirés par un désir quelconque ou un plaisir quelconque ou une passion quelconque, eh bien nous avons suivi une âme instigatrice au mal, nous sommes dans l'égarement. C'est faux. Voilà pourquoi l'imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala a dit une très belle parole. Et il dit, l'objectif de la purification de l'âme n'est nullement de rechercher ou de chercher à effacer ses composantes de la nature humaine. Ce n'est pas ça. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut mettre recette complètement ici dans ton âme et jusqu'à un point où tu n'as plus d'attirance concernant les désirs d'ici-bas. Allah Jalla wa Ala a créé l'être humain avec une attirance ici vis-à-vis des désirs et des passions. Et il dit, mais c'est plutôt de les ramener ou la ramener à l'équilibre afin d'éviter l'excès. Donc ça veut dire que dans tous les cas, que tu le veuilles ou non, tu seras attiré par des choses désirables, par des choses qui vont, par des passions, par des choses qui seront belles, par des choses qui vont t'apporter et faire ressentir un certain plaisir tout au long de ta vie. Donc est-ce qu'il t'est demandé, eh bien, d'éduquer ton âme à tel point qu'elle n'a plus aucune attirance ici face à ces désirs-là ou ces passions? Faux. Et si tu le fais, tu tomberas dans un excès. Et certaines personnes, au nom de l'éducation de l'âme, et au nom de az-zuhd, l'ascétisme, et au nom de du délaissement des plaisirs de la vie d'ici-bas, et au nom de l'islam, eh bien, ils se sont renfermés sur eux-mêmes, ils se sont coupés du monde, afin de ne plus avoir contact avec un quelconque désir. Parce qu'ils pensent que, ici, tu ne peux être attiré par des désirs et des passions. Sinon, tu as failli. Eh bien, c'est eux qui ont failli. Parce que l'être humain a besoin, ne serait-ce que de quoi ? Ne serait-ce que d'eau et de nourriture pour vivre. C'est vrai ou pas ? Est-ce que le fait de boire quand tu as soif, c'est un plaisir ou pas ? Est-ce que le fait de manger quand tu as faim, c'est un plaisir ou pas ? Donc, est-ce que tu dois te couper complètement de ce plaisir ? C'est impossible. Sinon, tu vas à ta perte. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ Allah Jalla wa Ala nous a interdit de se suicider, de courir à sa propre perte. Donc est-ce qu'il est demandé d'abandonner tous les plaisirs? Faux. Est-ce qu'il est demandé de régir ces plaisirs, ces sensations, cette attirance? Est-ce qu'il nous est demandé de ne pas tomber à l'excès d'un côté ou l'autre? Vrai. Il y a des personnes qui sont passées ici ou tomber dans un excès, comme j'ai cité précédemment, et d'autres dans un autre excès. Ils sont soumis à leurs désirs et à leurs plaisirs. Ils ont l'impression que l'objectif de la vie d'ici-bas, c'est d'assouvir ses passions et ses désirs. Faux, puisqu'il va mourir. Et de plus, Dieu nous rappelle que c'est une erreur à travers le fait que ses plaisirs et ses désirs, peu importe quels sont ses plaisirs et ses désirs, sont ou durent un délai très court. 5 secondes, 3 secondes, 1 minute, 10 minutes, 5 minutes, ça dépend de quel plaisir on parle. Et ici, on voit que ce désir, eh bien, s'atténue jusqu'à ce que tu n'aies plus, ici, l'envie d'assouvir ce plaisir ou ce désir, pour te rappeler que c'est éphémère, et que l'objectif principal, ce n'est pas d'assouvir tes plaisirs et tes désirs ici-bas, mais c'est une chose qui est autorisée, à partir du moment où tu la régis comme il se doit, Et l'objectif principal, c'est de satisfaire ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et pour cela, il n'y a pas d'autre choix que de purifier et d'éduquer ton âme. Sinon, elle te mènera vers l'égarement et la colère de ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Tu seras esclave de ton âme. C'est elle qui te guidera où elle veut, et comme elle veut, et quand elle veut. Et tu deviendras impuissant, même si tu penses ou tu laisses croire que tu es quelqu'un de fort physiquement et d'apparence, wallahi, tu seras soumis à ton âme de par ta faiblesse. Pas la faiblesse physique, mais la faiblesse de foi, la faiblesse de iman. C'est-à-dire, tu n'as pas été capable de dresser ton âme afin qu'elle soit soumise à toi et non le contraire. Et voilà pourquoi il est important de se concentrer sur la purification de l'âme afin d'arriver au stade où c'est toi qui commande et qui dresse et qui dirige ton âme par la permission de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Wa billahi tawfiq. Wa billahi at-tawfiq. Et la réussite et le succès auprès d'Allah Azza wa Jal. Sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme on va le voir, tu ne pourras pas éduquer ton âme et tu seras esclave, que tu le veuilles ou non, de ton âme. Donc, tous ces comportements qu'on voit assez bizarres aujourd'hui, on voit qu'il n'y a plus... il y a beaucoup de paradoxes entre l'aspect extérieur et ce que doit refléter normalement ce que la personne montre de façon extérieure à travers son comportement de tous les jours. On voit des paradoxes à travers ce que dit l'islam et ce que prétend appliquer la personne et l'aspect extérieur de la personne qui reflète une image de l'islam. Quand on voit tout cela, c'est tout simplement parce qu'on a inversé la règle. Au lieu de purifier son intérieur avant d'orner l'extérieur, eh bien on a orné l'extérieur et on ne sait même pas, je ne dis pas ensuite on a, certaines personnes ne savent même pas c'est quoi purifier l'intérieur. Alors n'attends pas de cette personne qu'elle te dise « oui, après ou au moment présent, je purifie mon intérieur ». Peut-être que si tu lui parles de ce sujet-là, « tazkiyatun nafs », il va te traiter d'un soufi égaré, d'une secte ou je ne sais quoi. Et wallahi, je pense que si on voyait comment les grands imams qui ont marqué l'histoire et les grands savants qui ont marqué l'histoire et les grands pieux qui ont marqué l'histoire et qui sont reconnus par les musulmans du monde entier comme étant des grandes personnalités, des grands savants, si je pense on les voyait avec nos yeux aujourd'hui, comment ils vivaient à leur époque, eh bien ces mêmes personnes-là qui ont tendance à traiter tout le monde d'égaré quand ils parlent de la purification de l'âme, eh bien, dirait de ces personnes-là, c'est pire que des soufis. Je ne suis pas en train de dire que toutes les catégories de soufis sont égarées. Hein. Et ce n'est pas parce qu'on parle de tasawwuf, du soufisme, que c'est un égarement automatiquement. Comme dans toute, même dans la religion, il y a plusieurs groupes. Dans le soufisme, il y a plusieurs groupes. Et Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayhi, on a parlé du soufisme. Ibn Taymiyyah, on a parlé du soufisme. De at-tasawwuf. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Je ne parle pas des égarements qu'il peut avoir chez certains groupes, mais je parle de ce côté spirituel, purification du cœur et de l'âme. Et comme disait un professeur en religion, il disait, si les musulmans d'aujourd'hui, ou plutôt, si les musulmans qui ont vécu à l'époque du prophète Mohammed, les compagnons as-sahaba, avaient compris la religion comme nous, les musulmans d'aujourd'hui, l'ont comprise, l'islam ne serait même pas sorti de la Mecque. De la Mecque, simplement. Parce qu'aujourd'hui, on voit que le nombre, c'est pas ça qui manque. Mais les dégâts que cause ce nombre-là, malheureusement, ou une partie, je ne vais pas généraliser, encore heureux, eh bien, nous montrent qu'on n'a pas compris la religion. Ou du moins, on n'a pas compris un point essentiel de la religion. Et c'est surtout la purification de l'âme. S'occuper de soi-même avant tout. Car la réforme générale passe par la réforme individuelle. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. La réforme générale passe obligatoirement par la réforme individuelle. Donc on ne peut pas rejeter tous les désirs. Car sinon, plus de plaisir, plus de mariage, plus de rapport avec nos épouses, plus de nourriture, plus de joie lors de naissance, plus de Et est-ce que cela s'est demandé en islam? Non. Le prophète alayhi salatu wasalam a pris du plaisir. Le prophète aimait des choses. Les compagnons étaient attirés. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: Zuyyina lin-nasi hubbu ash-shahawati min an-nisaa wal-banin wal-qanatir al-munqatarat wal-qanatir al-ayat. On a embelli aux gens le plaisir. Lin-nasi hubbu, l'amour, shahawat, des plaisirs, des passions. Et Dieu, Allah tabaraka wa ta'ala, cite plusieurs choses qui ont été ici apportées ou qui ont été données, octroyées par Dieu et qui attirent l'être humain. Et entre autres, la femme, l'homme est attiré par la femme est attirée par l'homme. Hubbu shahawat min an-nisa wal banin, les enfants, wal qanatir, ici, et tout ce qui concerne min al-dhahab wal fidda, tout ce qui concerne l'or, l'argent, à l'époque c'était les bêtes, les montures, aujourd'hui on pourrait dire les voitures, etc. Donc Allah Azza wa Jal, il dit, il nous rappelle que c'est Dieu qui a voulu cela, qu'on soit attiré par ces choses-là. Est-ce que cela, ici, nous rappelle que ce n'est pas interdit? Oui. Par contre, jusqu'à quel point ou à quel point tu vas être attiré ici par ces choses-là? Comment tu vas gérer ici ce sentiment, ces plaisirs, ces passions, ces désirs? C'est ce qui nous est demandé, tout simplement. Et donc, on comprend que purifier son âme, c'est d'empêcher son âme de tomber dans un excès quelconque. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit à trois reprises: halaka al-mutanatti'un. À trois reprises. Que périssent les extrémistes, ceux qui exagèrent. Parce que c'est des gens qui, au nom de la religion, prétendent éduquer leur âme, ça n'a rien à voir. Ils partent dans un excès. Et aujourd'hui, on voit des gens qui exagèrent. Je vous donne un petit exemple simple et on en parlera. As-salah. Celui qui veut éduquer son âme, ça passe par aussi la prière, as-salah, à travers al-khushu', l'humilité, la concentration dans la prière. Eh bien, vous avez vu que, comme on avait cité déjà lors d'un sermon, le texte où Omar ibn al-Khattab a vu un jeune qui, pendant sa prière, baissait énormément sa tête. Certains... Et Omar, il lui a dit quoi? Ya fulan, irfa' ra'sak. Lève ta tête. Il dit... Ici, l'humilité qu'il y a dans ton cœur, ce qu'il y a dans ton cœur, la concentration qu'il y a dans ton cœur, ou plutôt, ton aspect extérieur ne changera rien à ce qu'il y a dans ton cœur. Pour lui dire, le principal, c'est l'intérieur avant. C'est-à-dire que tu pries comme ça ou comme ça, ça ne va rien changer à ce qu'il y a dans le cœur. Et ce qui nous importe le plus, c'est quoi? Le cœur. Allah Jalla wa'ala dit, « Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa » Man ata Allah bi qalbin salim. Le jour où ni les biens et ni les enfants, la famille, ne te profitera en rien du tout, si ce n'est celui qui vient vers son Seigneur avec, et le cœur et l'âme se rejoignent. On en parlera. Certains disent que le cœur, c'est le réceptacle de l'âme. En tout cas, ils se rejoignent. Sauf celui qui vient avec un cœur, avec une âme, si tu veux, pure, saine. Donc, le principal, c'est le cœur. Ce n'est pas l'aspect extérieur, bien que l'aspect extérieur a son importance aussi dans certains cas. Et donc voilà pourquoi il est important de savoir aussi que l'âme, et bien comme disait l'ulama, nafsul insan tataqallab bayn al khayr wa shar. L'âme de l'être humain, ton âme, elle passe d'un état du bien vers le mal et du mal vers le bien, très rapidement. Et Allah tabaraka wa ta'ala l'a rappelé dans le Saint-Coran. Il a tellement donné de l'importance à l'âme, Allah Jalla wa'ala, dans le Saint-Coran, qu'il a juré avant de répondre à ce serment. Plus que cela, atwalu qasami fil Qur'an, le plus long serment dans le Saint-Coran, il est où? Dans quelle sourate? Le plus long serment, Dieu jure, et Dieu jure que par ce qu'il y a de grand et d'important. Eh bien, Dieu a juré dans le Coran. Et il a juré à plusieurs reprises. Il a tellement juré dans une sourate, avant de répondre à ce serment-là, avant de rappeler une chose importante qui suit le serment, que c'est le serment le plus long qu'il y a dans tout le Coran. Et sûrement une sourate que vous connaissez tous. Dans sourate À votre avis, allez. Baqara, non. Vous connaissez tous Baqara? Masha'Allah. Al-Fatiha, non. On parle de serment. Quand on jure. Par exemple, Wal-Fajr, Wa-Wul-Qasam, Wa-Shamsi Wa-Duhaha, Wal-Qamari Iza Talaha. J'ai récité cette sourate tout à l'heure. Hein? والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Ensuite Allah répond: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Deux points essentiels. Et c'est le plus long serment qu'il y a dans le Coran. Et quand toi tu jures à une reprise, est-ce que ça a le même impact? Et tu veux montrer la même importance que quand tu jures à deux reprises, à quatre reprises, à cinq reprises, à sept reprises. Ce n'est pas pareil. Prenons un exemple simple. Tu dis à une personne, « Wallahi que je l'ai fait !» Est-ce que ça a le même impact? Et tu veux montrer la même importance de la chose et de la réalité de la chose que si tu disais, « Wallah, 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 Wallah que je l'ai fait !» C'est pareil ou pas? Allah dit وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَالْلَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا. Il jure plusieurs reprises pour arriver à quoi? قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Pour parler de quoi? De l'âme. Et pour attirer l'attention. Traduction approximative. Par le soleil et par sa clarté. Donc il y a وَوْ الْعَطْف et ensuite et qui renvoie à le « waouh » du serment. Donc Dieu jure par toutes ces choses-là. « Washamsi wa duhaha » pas par n'importe quoi, par le soleil. Et Dieu, Allah Jalla wa Ala, ne jure que parce qu'il y a de grand et d'important. Et nous, en islam, on ne peut jurer sur, bien que ça soit important à nos yeux, notre mère, notre père, notre... Mais on ne doit jurer que par Allah. Il y a quelque chose de plus important qu'Allah Azza wa Jalla? Il y a quelqu'un de plus important qu'Allah Azza wa Jalla? Non. Pour nous rappeler que si tu jures, attention, c'est quand même quelque chose d'important et qui a une grande valeur. Tu jures par Allah. Donc le serment, ça a sa valeur en islam. C'est pas on jure simplement pour des choses mondaines. Non. Eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala dit par le soleil et sa clarté. Et par la lune quand elle le suit. Et par le jour quand il éclaircit, quand il éclaire. Et par la nuit quand elle l'enveloppe. Et par le ciel et celui qui l'a construit. Allahu Akbar. Il jure que parce qu'il y a de grands. Le soleil, la lune, le ciel, celui qui l'a construit. Et par la terre, l'arbre, et celui qui l'a étendu. Et par l'âme, et celui qui l'a harmonieusement façonné. Il jure par quoi? Wa nafsin wa ma sawaha. S'il jure par l'âme, Allah ne jure que parce qu'il y a de grand et d'important. C'est que l'âme, c'est quelque chose d'extrêmement important. Car ton corps, c'est l'enveloppe. Amma, ce qui nous importe, c'est ce qu'il y a dans l'enveloppe. Parce que ton corps repartira dans la terre. At-turab. Mais c'est quoi qui va sortir et quitter ton corps? C'est An-Nafs. Et Al-Ulama ont parlé longuement de la différence Al-Farq bayna An-Nafs wa Ar-Ruh. La différence entre le Nafs et Ar-Ruh. Dans tous les cas, la plupart des paroles nous rappellent que c'est un synonyme, Ar-Ruh. On parle de la même chose, on parle de l'âme, on parle de l'esprit, on parle de l'âme. Certains savants ont dit que on appelle l'âme un nafs, et c'est en général comme ça que Dieu l'a nommée, quand elle est dans le corps de l'humain. Elle n'a pas encore quitté ton corps. Et en général, Allah Azza wa Jal, quand il utilise le terme ar-ruh pour l'être humain, parce que ar-ruh est utilisé aussi pour l'esprit, on parle d'esprit aussi, pour Jibril, etc. Eh bien, c'est quand l'âme, elle a quitté le corps. Là, elle a cette appellation qui est Ar-Ruh. Mais quand elle est dans le corps de l'être humain, c'est-à-dire que tu as une emprise sur elle, tu peux l'éduquer, tu peux travailler sur elle, tu peux, parce qu'après c'est plus la peine, hein, tu ne peux plus quand elle a quitté ton corps. L'examen est terminé. Eh bien, quand tu as une emprise sur elle, et elle a une emprise sur toi, eh bien elle s'appelle An-Nafs. Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné. Allah, Allah Azza wa Jal. Et lui a alors inspiré فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Il lui a inspiré quoi, Allah Azza wa Jal? son immoralité de même que sa piété. Allah Jalla wa'ala te rappelle que l'âme, eh bien, aura deux côtés. Il parle d'immoralité, d'égarement, de perversion, mais aussi un côté bon et de sa piété. Et Allah Azza wa Jal, il dit après tout ce long serment, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. On parle encore de quoi? Celui qui a réussi, celui qui a gagné, celui qui sera bien heureux. Même terme qui est utilisé pour la prière. Parce que la prière, c'est un moment où on éduque son âme aussi. Et la prière permet à l'âme de s'éduquer. Et Allah Azza wa Jalla, quand il parle de prière, il dit quoi? قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Ont certes réussi les croyants. Ils ont réussi, ils ont gagné. Ils seront heureux ici-bas et dans l'au-delà. Heureux ici-bas parce que la prière, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière éloigne des turpitudes et du blâmable. Et plus tu t'éloignes des choses mauvaises, et plus tu goûteras à la protection divine, au bonheur ici-bas et dans l'au-delà, sous la protection d'Allah Azza wa Jalla, et Allah te facilitera les choses. Qad aflaha al mu'minun aflaha. Il a réussi le croyant. Les croyants ont réussi. Ceux qui sont humbles, qui ont goûté le khushu' dans leur prière. Et comme a dit Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayh, le khushu' c'est quoi? Ah, on parle d'âme encore. C'est quoi? Ruhu salah. C'est l'âme de la prière. Donc là on parle encore, regardez, Allah il nous rappelle encore dans un autre verset coranique que celui qui a éduqué son âme, qui a fait que son âme goûte à l'humilité dans la prière, il a réussi. Et là Azza wa Jalla nous dit encore, قَدْ أَفْلَحَ. Il a réussi. مَنْ زَكَّاهَ. Donc quand Allah il parle de ceux qui ont réussi, ceux qui ont gagné, ceux qui seront bien heureux, il parle toujours de ceux qui ont quoi? Réussi à purifier leur intérieur. Ce n'est pas l'extérieur. Vous avez vu un texte du Coran ou de la Sunna qui dit « A réussi celui qui a laissé pousser la barbe ». Je ne dis pas que la barbe, ça ne fait pas partie de l'islam, loin de là. Je ne dis pas, mais est-ce que Dieu a donné tellement d'importance à l'aspect extérieur qu'il a utilisé les mêmes termes qu'il a utilisés pour celui qui a réussi à purifier son intérieur? Non. Qad aflaha man zakkaha. Quoi, son intérieur? Tu vois l'âme ou pas? Qui voit l'âme? On ne voit pas. Mais celui qui l'a purifié, Allah il dit ça. Il a gagné. Il a réussi. Wa qad khaba man dassaha. Et Allah Azza wa Jalla dit, ici certes, il est perdu. Et perdu celui qui l'a corrompu. Parce que c'est toi qui l'as corrompu, parce que toi tu as une emprise sur elle. Donc toi, tu es responsable de ton âme. Donc ici, tu ne dois pas accuser ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala, mais tu dois accuser ta propre personne. C'est-à-dire que tu as une influence sur ton âme. Si elle est corrompue, c'est de ta faute. Et si ton âme, eh bien, a réussi à être purifiée, c'est toi la cause aussi. Mais tout cela se fait par la permission et l'aide d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ad-dalil. On va le voir par la suite. Et la preuve qu'un des moyens d'éduquer, parce que c'est ça le but aussi de ces interventions, savoir comment éduquer, purifier notre âme, c'est-à-dire de prendre conscience de ce sujet-là. Eh bien, parmi les moyens, on verra c'est quoi? De demander à Allah directement, car la meilleure des créatures, l'homme au cœur le plus saint et à l'âme la plus pure, eh bien, nous a enseigné une invocation qui lui-même la disait, afin qu'Allah Azza wa Jalla purifie son âme. Et cette invocation, c'est la moindre des choses que celles et ceux qui veulent purifier leur âme la connaissent. Qui la connaît? Personne ne connaît une invocation pour purifier son âme? Aucune. Hein? Là, c'est plus général. Je parle de l'âme directement. Ou l'âme est citée. On va le voir, Inch'Allah, par la suite. Donc déjà, il y a un problème quelque part. Vous êtes vraiment interrogé, est-ce que vous avez compris ce sujet? On va le voir, Inch'Allah. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a juré par cette âme-là. Et Allah tabaraka wa ta'ala, dans cette sourate, il a fait devant, c'est quoi? Al-Fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. C'est-à-dire, il lui a inspiré son immoralité, de même que ça, sa piété. Pour te rappeler que deux choses. Qu'à la base, l'âme, elle a un penchant vers l'égarement. C'est ça la base. À la base, l'âme, comme on le voit dans beaucoup de textes, eh bien, à la base, elle va avoir un penchant. C'est à toi. Si tu te laisses aller, si tu la laisses, elle part, l'âme. Si elle avait un penchement vers la piété, à la base, c'est-à-dire qu'elle était attirée automatiquement par les choses pieuses et elle s'écartait facilement des choses mauvaises, l'histoire serait réglée. Laisse-toi aller, fais pas d'effort. Laisse-la, l'âme, elle part. De toute façon, elle est attirée comme un aimant vers les choses bonnes. C'est le cas ou pas? L'âme, à la base, elle est attirée par quoi? Par les désirs, les passions, même excessives. C'est à toi maintenant de la retenir, de la contrôler. Tu comprends? Donc si toi, tu baisses la garde, si toi, tu n'es pas sur tes gardes, si toi, tu te laisses aller, si toi, tu commences à être insouciant, comme on dit dans Darija, Daklma, ça y est, t'es emporté. Voilà pourquoi, dans beaucoup de textes prophétiques, surtout, eh bien, on a ces recommandations. Pourquoi? On a des recommandations afin de faire le dhikr, le rappel d'Allah Azza wa Jal. Le matin, le soir, évoquer Allah, invoquer Allah, après les prières, avant les prières. Pourquoi tout cela? Parce que Allah te rappelle, si tu ne vis pas avec ce dhikr, eh bien ton âme va se faire avoir. Et voilà pourquoi les gens qui s'éloignent du rappel de Dieu, celui qui s'éloigne du rappel de Dieu, c'est-à-dire il passe une journée, deux journées, trois, ne serait-ce que trois, quatre journées, sans avoir fait de rappel du soir et du matin. Peut-être même certains ne font même pas de prière, ou on va dire ils prient sans prier. Encore comme il a dit l'imam Ahmed, rahmatullahi alayh, viendra une époque ici où les gens prieront, wahum la yusallun. Yusallun, wahum la yusallun. Ils prient mais ils ne prient pas. Et l'imam Ahmed a dit, et je crains qu'on vive cette époque. Qu'est-ce qu'aurait dit l'imam Ahmed s'il nous aurait vu aujourd'hui? Il dit, je crains qu'on vive cette époque, à son époque. Hein. Eh bien ici, si toi tu laisses ton âme comme ça, sans éducation, 3-4 jours, tu vois, les gens, ils ont du mal à revenir après. Alors, regarde les gens qui sont dans un état où pendant un an, deux ans, ils se sont éloignés vraiment du rappel de Dieu, etc. Quand tu lui parles, il a vraiment du mal. Pourquoi? Son âme est tellement partie loin qu'avant qu'il la rattrape et avant qu'il puisse la dresser, il va falloir faire beaucoup d'efforts. Éduquer un cheval qui, depuis son plus jeune âge, eh bien, ici a été dressé, et toi, tu es arrivé, tu veux continuer à le dresser, c'est beaucoup plus facile que si on t'amène un cheval sauvage et qui a déjà passé je ne sais quel âge et on te dit, vas-y, monte dessus ou dresse-le. C'est pareil ou pas? Ça demande beaucoup plus d'efforts. Donc, plus tu baisses la garde et plus tu es dans l'insouciance et plus ton âme s'égare. Voilà pourquoi tous les jours, il faut rester constamment dans l'éducation de l'âme à travers, entre autres, le rappel de Dieu, la prière, les exhortations, etc. Rester baigné dans cette ambiance-là. Sinon, ton âme, elle part. Très rapidement, elle part rapidement. Et Allah tabaraka wa ta'ala commence par alhamaha fujuraha wa taqwa. Il commence par, il dit, l'âme, elle a ce côté immoral et ce côté de quoi? De piété. L'âme pieuse, l'âme bonne. Pourquoi il commence par l'immoralité? Parce qu'on a dit premièrement, l'âme à la base, elle est plus attirée vers les choses immorales. Et Allah azza wa jalla te rappelle ce qu'on a dit précédemment, ce n'était pas pour rien. Si tu veux arriver au stade, au deuxième stade, l'âme de la piété, eh bien sache que tu dois d'abord purifier ton âme de l'immoralité. Ensuite et seulement ensuite, tu pourras atteindre ce degré de quoi? La piété du cœur et la piété de l'âme. Et c'est pour ça que le prophète, il parle souvent de cela, et Allah Azza wa Jalla aussi, فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Ça fait partie de la piété des cœurs. C'est-à-dire, c'est une preuve que le cœur est bon, que l'âme est bonne. L'âme a été éduquée. Elle craint son Seigneur. Elle s'éloigne des choses mauvaises. Et elle va vers les choses bonnes. Et donc, on voit encore l'importance de la purification avant l'ornement. Et ici, il y a une question qui se pose. C'est quoi exactement purifier son âme? C'est une question importante. Ça consiste en quoi purifier son âme? Comment purifier son âme? Alors, il y a plusieurs étapes à suivre. Parmi ces étapes, on peut évoquer le fameux livre d'Ibn al-Qayyim, rahmatullahi alayh, l'explication de, ici, Madarij al-Sa'irin. Ibn al-Qayyim a fait l'explication de ce livre-là, et il a intitulé, lui, Madarij al-Salikin. Et il a rappelé les étapes, les demeures spirituelles qui te mèneront tout au long, al-manazil, tout au long de ta vie, vers ton Seigneur Allah tabaraka wa ta'ala. Et il cite plusieurs étapes, plusieurs demeures spirituelles. Donc ça, c'est rentrer vraiment dans les profondeurs et dans les détails. Il parle de l'étape spirituelle, la demeure spirituelle, du tawakkul, de l'amour d'Allah, de l'ascétisme, de la bonté, etc. Mais une grande ligne. On a besoin d'une grande ligne. Comment éduquer son âme? Qu'est-ce qu'éduquer son âme? Eh bien, laissons la meilleure des créatures sur la surface de la terre, Mohammed alayhi salatu wassalam, répond. Dans le hadith rapporté par Abu Daoud, le prophète alayhi salatu wassalam fut interrogé concernant l'éducation de l'âme. Et il dit, « Thalathun, trois, man fa'alahunna faqad ta'ima ta'am al-iman. » Trois choses, celui qui les pratique aura goûté à la saveur de la foi. Parce que vous savez que la foi, elle a un goût, elle a une saveur. Quelquefois, tu ressens ta foi, tu te sens bien. Ça arrive quelquefois rapidement, ça redescend rapidement. Mais pour maintenir cela, il faut vraiment faire des efforts. Tout travail mérite salaire. Eh bien, le prophète alayhi salam nous dit trois choses, celui qui les pratique aura goûté à la saveur de la foi. Et il y a plusieurs hadiths. Ce hadith, il est qualitatif, pas quantitatif. Ça veut dire que ce n'est pas simplement ces trois choses-là qui vont faire que tu vas goûter à la saveur de la foi. Il y a d'autres choses. Mais entre autres, ces trois choses-là. Je résume le texte. Il dit, alayhi salatu wassalam, man abad Allah wahda. Celui qui adore Dieu, seul, l'unique. Et il sait qu'il n'y a aucune divinité qui ne mérite d'être adorée sauf Allah. At-tawhid, première des choses. Deuxième des choses, c'est celui qui va donner az-zakah. Subhanallah. Az-zakah, c'est une cause qui va faire que tu vas goûter à la douceur de la foi, à la saveur de la foi, az-zakah. Na'am. Parce que az-zakah est appelé az-zakah parce que c'est quoi? Une purification. Une purification que de l'argent faux. C'est une purification de l'argent et de toi, de tes péchés aussi, et de ton âme aussi. C'est une purification de ton âme, parce que tu éduques ton âme à travers Zaka ou pas? Tu l'adresses. Ton âme, elle est attirée par les choses bonnes. Et parmi les choses bonnes, il y a quoi? Et les choses que tout le monde aime. C'est l'argent. Qui n'aime pas l'argent? Il lève la main. Tout le monde aime l'argent. Maintenant, quel est le degré d'amour que tu as vis-à-vis de l'argent? Ça, c'est autre chose. Donc ici, l'âme va être attirée vers cet argent et toi tu l'éduques, tu dois donner zakat. Donc c'est une purification de ton argent et de ton âme. Crois pas que zakat c'est que l'argent, c'est une purification de ton argent et de ton âme. Donc ça c'est une chose aussi qui va faire que quoi? Tu vas goûter à la douceur de la foi. Mais pour sortir zakat, faut savoir comment sortir zakat. Et pour savoir comment sortir zakat, il faut quoi? Al-ilm, la science, apprendre. Donc la science, c'est une purification de l'âme. Et la purification de l'âme passe par aussi la science, al-ilm. Sinon, tu ne pourras pas purifier ton âme comme il se doit. D'accord? Et il dit la troisième chose, et c'est ce qui nous importe. Il dit, alayhi salatu wassalam, wa zakka nafsahu. Et c'est celui qui purifie son âme. Et là, il y a un homme qui a été interpellé par cela, un compagnon. Et il dit, ya Rasulallah, ça consiste à quoi le fait que l'homme purifie son âme? Et là le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit c'est quoi la purification de l'âme et comment tu vas réussir à purifier ton âme tous les jours, hein? Il dit ya'lamu anna Allah ma'ahu haythu ma kan. Il sait pertinemment que Dieu est avec lui où qu'il soit. C'est quand il va ressentir la présence divine qu'Allah le voit, qu'Allah l'entend, qu'Allah le teste, qu'Allah le surveille. Où qu'il soit, à n'importe quel moment, Allah te voit. Là, à ce moment-là, tu vas vraiment purifier ton âme. Tant que tu n'as pas atteint ce niveau-là, de ressentir que Dieu te voit, tu ne pourras pas purifier ton âme. Et voilà ici pourquoi le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il fut interrogé sur al-ihsan, le degré le plus haut, al-islam, al-iman, al-ihsan. Il dit, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal ka'annaka tarah, comme si tu le voyais. Mais si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Ça, c'est tu vas purifier ton âme comme il se doit. Donc, il faut ressentir cette présence divine. Donc, on a compris comment purifier son âme. Mais comment atteindre ce degré-là? Eh bien, c'est un travail de tous les jours, jusque ta mort. C'est travailler ta foi, c'est connaître ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, reconnaître la grandeur de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, faire des efforts. Et plus tu fais des efforts, et plus Allah te facilite. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit dans un hadith qudsi, traduction du sens, ô mon serviteur, si tu marches vers moi, je courrai vers toi. Le prophète alayhi salatu wa salam nous rappelle qu'Allah jalla wa ala rappelle à son serviteur que si le serviteur fait le premier pas. Donc ceux qui disent, tu lui dis fais un effort. Wallahi dini, qu'Allah me guide. Amin. Lakin, si tu veux que Dieu vienne te facilite, vienne vers toi, c'est une métaphore, eh bien, il faut que d'abord toi, tu fasses les causes. Après, dis Allah hidini. Allah guide-moi, mais quand tu as fait un effort, est-ce que Dieu va t'abandonner? Impossible. Mais il t'est demandé d'abord de faire l'effort. Allah ghalib, je suis comme ça. Moi, je suis comme ça, c'est mon défaut. Eh bien, tu resteras comme ça. Tant que toi, tu ne marches pas vers Dieu, eh bien, Dieu ne viendra pas vers toi. Il veut d'abord que tu fasses un effort, bien que sa miséricorde dépasse sa colère, bien que même si Dieu sait que tu auras d'énormes manquements, mais il te dit, fais un effort. Même si minime soit-il, mais fais un petit effort. Taharrak, bouge un peu quand même. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel à comprendre. Et on va voir, bi'ibnillahi tabaraka wa ta'ala, comment, eh bien, atteindre ce niveau-là, incha'Allah ta'ala. On va commencer, incha'Allah ta'ala, la risala de l'imam al-Ajurri, rahimahullah ta'ala, et le frère va lire inshallah ta'ala et on va expliquer au fur et à mesure.
Alhamdulillah rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd dhikrul hadhar min an nafs qala Abu Bakr Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat.
Na'am, là on cite l'auteur, et avant que l'auteur lui-même loue Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien il est rappelé que c'est l'imam al-Ajurri, et c'est comme ça que procédaient les savants quand eux-mêmes écrivaient un épître ou un livre. Ils citaient leur nom, preuve de modestie, d'accord. Tel imam a dit, mais il parle de lui, d'accord. Et on retrouve souvent ça dans les épîtres, dans les livres qu'écrivent les auteurs eux-mêmes. Al-Ajurri, c'est un savant qui est mort à l'an 320 de l'Hégire. Et il est mort à la Mecque après avoir enseigné la religion pendant 30 ans. Donc 320 de l'Hégire, on voit qu'il faisait partie des siècles qui nous ont précédés il y a très longtemps. 320 de l'Hégire. Donc on voit que c'était une personne qui était dans ses meilleurs siècles, ses meilleurs moments où les plus grands des hommes ont marqué l'histoire. Naam.
والحمد لله على كل حال وصلى الله على محمد النبي وعلى آله أجمعين وبالله أستعين.
نعم. Ici, le shir, comme la plupart des savants, eh bien commence leur épître, leur livre, il loue Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Et cela dépend. Certains vont commencer par Bismillah, certains par l'isti'adha, certains par Alhamdulillah. Et tout cela est bon, et tout cela est une source de bénédiction dans ce qui va suivre. De plus, le fait de commencer toute chose importante par le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala est un rappel pour toi-même que ce que tu as fait, ce que tu as entrepris, ce que tu as écrit, cela a été accompli par la permission d'Allah azza wa jalla. Et cela ne vient pas de toi exclusivement, mais tout vient d'Allah azza wa jalla, et tout le bien qui va suivre et par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cela te pousse à quoi? At-tawadu', la modestie. Moi, je suis simplement quelque part, une métaphore, un outil. Dieu m'a utilisé dans le bien. Alhamdulillah. Et alhamdulillah, comme a dit Ibn Abbas, c'est kalimatu kulli shakir. C'est la parole de toute personne reconnaissante. Donc tu dois être reconnaissant avant tout envers qui? Envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et toutes les louanges appartiennent à Allah jalla wa ala. Et il y a un hadith qui a certes été jugé faible par certains savants, mais jugé bon par d'autres savants et jugé authentique par d'autres savants, il faut le rappeler. C'est le fameux hadith rapporté par l'imam Ahmad et jugé bon par Ibn Hajar. Il est important de rappeler qui a jugé bon les hadiths, et ça ne veut pas dire qu'un savant a jugé faible un hadith qu'il est faible. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, a jugé bon le hadith. Et l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a jugé bon le hadith rapporté par l'imam Ahmad, où le prophète alayhi salatu wasalam a dit: kullu kalam aw amr dhi balin la yuftahu bi dhikri Allah azza wa jalla fa huwa abtar aw qal fa huwa aqta. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit: toute chose importante ou parole importante qui ne commence pas par le nom, l'évocation de Dieu, eh bien c'est une chose qui est coupée. C'est-à-dire qu'il y a un manquement. C'est-à-dire qu'il y a une déficience dans ce qu'on va entreprendre aussi. Il y aura quelque part une déficience dans ce qu'on va entreprendre. Il manque quelque chose. Eh bien, ici, l'œuvre, elle est quelque part incomplète. Même l'œuvre qui va être accomplie. Parce qu'on n'a pas commencé par le nom de Dieu. Eh bien, même si on considère qu'il est faible, eh bien, du point de vue du sens, il est très bon. Et d'autant plus que beaucoup de savants l'ont considéré comme bon. Tout simplement parce que le fait de mentionner le nom de Dieu, c'est une cause de la bénédiction dans ce qui va suivre. Voilà pourquoi, avant de manger, on dit quoi ? Bismillah. Le prophète alayhi salatu wasalam évoquait son Seigneur, comme a dit Aïcha, dans toute situation. Toute situation. Il est bon d'évoquer Allah quand tu te lèves. Il est bon d'évoquer Allah quand tu t'assois. Il est bon d'évoquer Allah quand tu bois. Il est bon d'évoquer Allah quand tu manges. Il est bon d'évoquer Allah dans toute chose, dans tout ce que tu vas entreprendre, même lors des rapports, avant le rapport avec ton épouse. Il est bon d'évoquer Allah quand tu rentres chez toi. C'est une des causes que Shayatin quitte ta maison. Il est bon d'évoquer Allah quand tu sors. Bismillah tawakkalna. Bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Ici, bismillah tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah. Quand tu rentres chez toi, bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Dans toute chose, il est bon d'évoquer Allah. Comment ne pas évoquer Allah tabaraka wa ta'ala alors que tu vas parler de la science de Dieu, la science divine. Tu vas enseigner la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc si tu veux que ce que tu vas entreprendre et ce que tu vas dire soit accompagné de bénédictions, commence toujours par évoquer le nom d'Allah. Peu importe, soit bismillah, soit alhamdulillah, soit, mais évoque le nom d'Allah azza wa jalla. Et quelquefois le prophète alayhi salatu wa salam commençait par alhamdulillah. Simplement en disant alhamdulillah, kafa, cela suffit inshallah ta'ala. Naam.
Amma ba'd, وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه سميع قريب.
نعم. Ici le shir, je ne vais pas traduire mot par mot, mais le sens hein, à chaque fois. Ici le shir, ici continue après les louanges. Il continue avec quoi ? Avec وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه سميع قريب. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est des invocations, الدعاء. C'est des invocations. Donc le shir a commencé par la louange. Après la louange, il a prié sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et ensuite, il a fait quoi ? الدعاء. Ce n'est pas pour rien. Ce qui fait partie de adab ou du'a, les bienséances de l'invocation, c'est quoi ? On loue Allah. Na'am, al-thana. Ensuite, on prie sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Et ensuite, on reconnaît notre déficience. Il est important de Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min adh-dhalimin. La ilaha illa an subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Toutes ces invocations-là, cette reconnaissance de faiblesse est une des causes de l'acceptation de du'a. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit, toute personne qui dit La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min adh-dhalimin, ce qu'il demandera après sera accepté. C'est quoi La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min adh-dhalimin? Qui l'a dit? Younus alayhi salam, quand il était dans le ventre de la baleine ou du poisson, il a reconnu son erreur et sa faiblesse. Et dit La ilaha illa ant. Il n'y a de divinité digne d'être adoré en dehors de toi. Subhanak, il glorifie Allah. Gloire à toi. Inni kuntu min adh-dhalimin. Certes, j'ai été parmi les injustes. Le prophète a dit, toute personne qui dit cela et ensuite invoque Allah, Allah acceptera son invocation. Et le shir, qu'est-ce qu'il dit ? Wa na'udhu billahi min shururi anfusina. Il reconnaît la faiblesse de son âme. Et on cherche protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre le mal de nos âmes. وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. Et contre nos mauvaises actions. Regardez, subhanallah. Ici, al-ulama, quand ils écrivent, ce n'est pas n'importe comment, oui, il a fait une muqaddima. Là, il a commencé par Al-Thana, il a prié sur le prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, il fait dua, et dans la dua, il reconnaît quoi? Il reconnaît la déficience, les faiblesses de sa propre âme et les mauvaises conséquences que peuvent apporter ces mauvaises actions. Et le prophète Ali afdalus salatu wassalam nous a rappelé aussi dans un hadith authentique, chaque invocation est voilée jusqu'à ce que soit faite la prière sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et dans d'autres hadiths, le prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle que l'invocation sera susceptible d'être acceptée que si on invoque Allah Azza wa Jalla, on fait les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala et on prie sur le prophète alayhi salatu wassalam. Et dans certaines versions, on prie au début de l'invocation et à la fin de l'invocation. Donc, évoquer le prophète alayhi salatu wassalam, prier sur lui, c'est une des causes de l'acceptation des invocations. Reconnaître sa faiblesse, c'est une des causes de l'acceptation de ces invocations. Et louer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une des causes de l'acceptation de l'invocation et de la reconnaissance que tout ce qui nous est donné, eh bien, vient de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et tout le bien qu'on peut faire, c'est par la permission d'Allah azza wa jal. Et le cheikh ici, avant cela, il nous a rappelé une chose essentielle. Wa billahi asta'in. Il a rappelé que quoi? Al-isti'ana, il cherchait aide, assistance, secours auprès de qui? Auprès d'Allah azza wa jal. Regardez la modestie. Wa billahi asta'in. C'est comme s'il disait, Ya Allah, je te demande de l'aide pour me faciliter l'écriture de cette épître. وَبِاللَّهِ أَسْتَعِينَ نعم
يَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ذِكْرُهُ ذَكَرَ النَّفْسَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ
Ici, le prophète عليه الصلاة والسلام nous a enseigné une invocation. Parce que le cheikh est dans le dua. Et parmi les invocations qu'il a fait, il aurait pu citer l'invocation. Cela aurait été certes plus complet, et ça ne veut pas dire que ce qu'il a cité c'est incomplet, mais ça aurait été plus complet de citer directement ici l'invocation qu'il a citée et l'autre invocation que le prophète alayhi salatu wassalam citait. Parce que ce qu'il a cité, est-ce que le prophète le disait? Non, dans khutbatul haja. Hein? C'est quoi khutbatul haja? C'est le sermon de quoi? De demande. C'est ce qu'on disait, ce qu'on dit en début de sermon en général, quand on fait un sermon, une khutba, ou bien une maw'idha, une exhortation, ou bien un dars, un cours. Le prophète alayhi salatu wassalam avait pour l'habitude de faire khutbatul haja. Inna alhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Le prophète alayhi salatu wassalam commençait par cela. Et on cherche protection auprès de Dieu, refuge auprès d'Allah azza wa jal contre le mal de nos âmes et contre le méfait de nos mauvaises actions. Il l'a cité. Mais il y a une autre invocation essentielle. Et c'était l'invocation que je vous disais tout à l'heure. Le prophète alayhi salatu wassalam dans Sahih Muslim, il nous est rapporté qu'il disait Allahumma ati. D'accord, apport. Allahumma ati. Nafsi taqwaha. Wa zakkiha. Anta khayru man zakkaha. Anta waliyuha wa mawlaha. Ça, c'est une invocation à apprendre. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ô mon Dieu, donne ati nafsi à mon âme taqwaha, sa piété. Vous rappelez Allah Azza wa Jal fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Donc tu demandes à Allah Azza wa Jal, cette âme là, cette âme pieuse, tu demandes, Ya Allah, accorde à mon âme sa piété. Wa zakkiha, regardez subhanallah, et purifie-la. Anta khayru man zakkaha, tu es le meilleur qui puisse la purifier. Pour nous rappeler que quoi? Tout ce que tu fais pour la purifier, eh bien, ici, ton âme avec cela ne pourra être purifiée que si Allah Azza wa Jalla la purifie, car Allah est le meilleur qui peut la purifier. Anta khayru man zakkaha. Toi, tu es le meilleur qui puisse la purifier. Et ensuite, il termine par Anta waliyuha wa mawlaha. Tu es son maître et son seigneur. On rappelle que l'âme, c'est toi, ya Allah, qui est son maître et son seigneur. C'est toi qui la dirige, c'est toi qui la commande. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam avait pour habitude de dire par celui qui détient mon âme dans sa main. Parce que Allah azza wa jal a inspiré au prophète alayhi salatu wassalam de répéter cela pour se rappeler à lui-même et nous rappeler que l'âme est entre les mains d'Allah azza wa jal. Il en fait ce qu'il veut. Donc si Allah jalla wa ala est le maître et le seigneur commande l'âme, c'est le plus à même à purifier l'âme. Et donc on le rappelle dans l'invocation. Donc apprenez cette invocation. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Na'am, ya'lamu.
Munabbihun bi ma'ani kathira kulluha tadullu 'ala al-hadhar min an-nafs. أخبرنا مولانا الكريم أنها تميل إلى ما تهواه مما لها فيه من اللذة.
نعم. On continuera inshallah ta'ala lors du prochain cours l'explication. Je continuerai à faire l'explication de la risala de l'imam al-Ajuri inshallah ta'ala. والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.